Chapitre 6. Vera reprit sa route en suivant les points de repère tracés à intervalles réguliers sur les troncs, des cercles de peinture rose fluorescent situés à 1,50 m de haut. Deux interminables kilomètres l'attendaient à travers les pins sylvestres et les hêtres, un trajet durant lequel elle serait ralentie par la neige, le relief accidenté et le bidon de fioul de 10 litres qu'elle portait. Quand la brûlure dans ses muscles devenait insupportable, elle changeait de main et poursuivait sa marche de forçat. Certains jours, elle jetait tout et poussait un grand cri, ou cognait contre les troncs de toutes ses forces. Les gens lui manquaient, le bruit lui manquait, les cinémas et les restaurants lui manquaient. Puis, une fois sa rage passée, elle repartait, armée de courage, s'enfonçant toujours plus dans les profondeurs des bois. À son arrivée au début du printemps, avec pour seule possession sa voiture et un sac de vêtements dans une valise à roulettes, on lui avait laissé le choix entre un Algeco à proximité du hameau ou un ancien chalet, longtemps utilisé comme refuge par les chasseurs, mais beaucoup plus isolé, à une demi-heure de marche et à proximité d'une rivière. On lui avait expliqué que l'occupant précédent, un psychiatre hypersensible lui aussi, avait dû regagner la ville à cause d'un cancer. Vera avait visité un Algeco et ressenti une lourde angoisse à l'idée de vivre dans un bloc en tôle. Les murs en métal blanc, la fenêtre ridicule. Elle était vite sortie pour respirer et avait opté pour le chalet. Elle était jeune et en forme. Quelques kilomètres quotidiens ne la tueraient pas. Et puis, elle y avait également vu un incroyable signe du destin, puisqu'elle-même était psychiatre. Elle passa devant un embranchement qui partait sur la gauche en direction du chalet de son ami André, à environ 2 heures de là. Enfin parvenue à destination, elle vida le contenu de son jerrycan dans la cuve de son générateur et entra se mettre au chaud dans la vieille demeure en bois. Les rondins des parois s'essoufflaient, des lattes dépassaient du plancher, l'isolation des vitres était loin d'être optimale, mais l'occupant précédent avait retapé au mieux l'intérieur et avait su le rendre moins lugubre. Il avait d'ailleurs tout laissé sur place. Un fauteuil en cuir abîmé, mais confortable, un tapis de type Quilim, des animaux de la forêt sculptés, une bibliothèque garnie de polars, de classiques et d'ouvrages de psychiatrie, le DSM-5, le livre référence des maladies mentales, des études de cas cliniques, des manuels, des romans et des récits autobiographiques. Tout un programme. Dans son chalet, Vera disposait également de l'électricité grâce au générateur situé à une dizaine de mètres à l'extérieur, d'un poêle à bois pour le chauffage et la cuisson, ainsi que d'une pompe qui descendait jusqu'à la nappe phréatique et qui, à la différence de ce qu'offraient les Algeco, assurait ses besoins en eau. Une source d'autant plus précieuse qu'un filtre la rendait potable. Elle posa sur la table le roman qu'elle avait glissé sous sa doudoune, enfourna une bûche dans le poêle et s'installa devant la radio CB léguée, elle aussi, par son prédécesseur. Un vestige des années 1980 à l'antenne rafistolée, mais qui fonctionnait encore. Et qui, surtout, avait l'avantage d'utiliser une bande de fréquences radio autour des 27 MHz, épargnant à la jeune femme les hyperfréquences qu'elle ne supportait pas. Elle alluma le poste qui émit son sifflement caractéristique, empoigna le micro et enfonça le bouton latéral. « Vera au vieil ours !» Une voix grave lui parvint en retour. André Lambert alignait 70 bougies. Ancien garde forestier de cette partie du parc régional, il vivait dans un chalet à peine plus confortable que le sien et tout autant isolé. Elle n'était allée chez lui que 2 fois. Excellent marcheur, c'était toujours lui qui se déplaçait, soit parce qu'il chassait dans le coin, soit parce qu'il venait chercher ou rapporter les livres qu'il lui empruntait. Mais depuis l'automne, elle ne l'avait plus vu. Désormais, le seul lien qui subsistait entre eux, c'était ses communications.
« Ouais, gamine, je suis là. Bien le bonjour en ce 13 février, jour des Héloïses, en l'honneur de la bienheureuse Héloïse, ermite bénédictine morte je ne sais plus quand. »
Vera sourit et arracha la feuille de son éphéméride. C'était André qui le lui avait donné.
« Tu m'as mis dans une position délicate avec ton pion, tu sais.
continua-t-il.
J'ai cherché une parade la moitié de la journée et je tiens quelque chose. Fou en E7. J'aimerais tellement être en face de toi pour voir ta tête. Pour fêter ça, je me sers un verre. Tu m'accompagnes ?
Trop tôt pour moi.
L'alcool tue lentement, mais on s'en fout, on n'est pas pressé, disait un certain Courteline. Je t'ai raconté que mon médecin, un vieux grincheux de la ville, m'a dit qu'à cause de mes problèmes de cœur, je risquais de crever avec une bouteille à la main. Mais je fais quoi, moi, si je bois plus ?
Et moi, si t'es plus là pour me tenir compagnie ?
J'ai pas encore tiré ma révérence. Va encore falloir que tu me supportes un bout de temps. Allez, santé quand même, gamine.
Elle entendit un claquement. André avait dû trinquer contre sa table en bois. La jeune femme déplaça le fou noir qu'il lui avait indiqué. Il ne s'agissait pas de la pièce d'origine. Vera avait dû la faire tomber un jour entre deux lattes de plancher car elle était introuvable. Mais d'un bouchon de bouteille de vin taillé au couteau et noirci à la cendre. Elle sourit. Son adversaire pensait avoir joué un bon coup. Pourtant, elle tenait déjà son prochain mouvement qui mettrait avec certitude la défense opposée en difficulté. Quand il lui demanda ce qu'elle jouait, elle fit malgré tout mine d'être ennuyée. Et il faut que je réfléchisse, là.
Ok, mais ce serait bien que je gagne cette fois. Je te rappelle que Hemingway a écrit « L'homme n'est pas fait pour la défaite. L'homme peut être détruit. »
« Mais pas vaincu, » finit-elle, amusée. Le vieil homme et la mère étaient l'un des livres de la bibliothèque dans laquelle piochait André lorsqu'il passait chez elle. Et il avait la manie de citer ses auteurs favoris dès que l'occasion se présentait. Vera alla récupérer sa découverte du matin sur la table et reprit place. « Au fait, Sophie Henrichs, tu connais ?»«
Henrichs ? Ça sonne régional, ça. Mais non, jamais entendu parler. Une nouvelle naufragée ? Sexy, au moins. »
Une romancière. Je suis tombée sur son bouquin, La fille venue de l'ombre, dans l'ancienne boulangerie à côté du four à pain. Il y avait aussi des mouchoirs et des emballages de nourriture, comme si quelqu'un s'était réfugié là-bas cette nuit. Des grésillements lui répondirent d'abord, puis la voix du vieil ours s'éleva de nouveau.
Ça raconte quoi ?
Vu le résumé, c'est le genre thriller, un truc de séquestration. Ce que je comprends pas, c'est ce qu'il faisait là. Je veux dire, aucun naufragé ne se serait mis dans un coin de la boulangerie par -8 degrés pour grignoter et lire à même le sol. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est bizarre.
Tu sais, parfois, la solitude, ça rend fou. Tu vas sans doute pas me croire, mais j'ai croisé un chasseur de baleines un jour qui...
Non, elle ne le croyait pas. Mais elle resta là, la joue dans une main, captivée, à écouter ces anecdotes qu'il créait de toutes pièces, même s'il les certifiait exactes. Comment un homme qui avait passé toute sa vie dans cette forêt aurait-il pu rencontrer un chasseur de baleines ou un capitaine de sous-marin ayant écumé les océans ? La psychiatre qu'elle avait été l'aurait classée dans la catégorie des mythomanes. André aimait vivre les histoires des autres, celles de Melville, celles de Jules Verne, celles de bien d'autres encore. Pourtant, la femme qu'elle était désormais appréciait sa voix et sa capacité à l'embarquer dans son monde. Après tout, seuls les récits et son imagination pouvaient à présent l'emmener loin d'ici. Après une bonne heure, elle coupa la communication. Son regard s'obscurcit lorsqu'il se posa sur la photo de la fillette blonde collée sur une face de la radio CB. Émilie lui souriait, comme toujours, et Vera lui rendit son sourire. Mais un sourire d'une tristesse infinie. On ne se laisse pas abattre. On ne se laisse pas abattre. Répéta-t-elle tout haut pour elle-même en se versant finalement un fond de vodka. Elle fit chauffer de l'eau pour sa toilette sur une plaque en fonte et une boîte de salsifis accompagnée de boulettes de viande sur une autre. La jeune femme ne mangeait qu'un gros repas par jour et depuis son arrivée, avec la marche, les bidons à transporter, les dures journées au chantier, elle avait dû perdre 10 kilos, un vrai sac d'os. Elle ne savait même plus à quoi elle ressemblait avant que sa vie ne s'écroule comme un château de cartes. Il était presque 21 heures quand, après avoir alimenté le poêle pour la nuit, elle se couvrit chaudement et osa une dernière sortie. Les toilettes trônaient dans un cabanon dehors, attenant à l'abri à bûches. Entre 4 planches de bois et un toit sommaire, elle urina en veillant à ne pas s'asseoir sur la cuvette glaciale. Ensuite, elle se hâta de rentrer et se coucha dans la chambre, enroulée dans une épaisse couverture en laine. La pièce se résumait à 5 malheureux mètres carrés, mais au moins, ça lui évitait de dormir de l'autre côté de la cloison, dans l'espace qui faisait déjà office de salon, de salle à manger et de cuisine. Et puis, le lit était confortable. Elle avait seulement plaqué un carton devant le hublot qui donnait sur l'extérieur. Bien sûr, il n'y avait pas même un oiseau pour la voir, mais la simple idée qu'on pût l'observer par la fenêtre alors qu'elle dormait l'angoissait. Comme chaque soir, elle remonta sa montre mécanique et la posa sur la table de nuit, à côté du miroir sur pied. L'horloge accrochée au mur ne fonctionnait plus, faute de piles chargées. À quoi bon, dans le fond ? Le temps avait tellement peu d'importance ici. Il aurait pu s'étirer ou se contracter qu'elle n'aurait même pas vu la différence. En ces lieux reculés, les repères temporels avaient en définitive si peu de sens. C'était pour cette raison, d'ailleurs, que seul son éphéméride la laissait connectée aux journées qui passaient. Dans le ventre de cette forêt, où il n'y avait pas âme qui vive à des kilomètres à la ronde, Vera ouvrit « La fille venue de l'ombre » et en entama la lecture.